Léon Gozlan, un village comme il n'y en a pas deux dans l'univers. Un de mes amis, qui est prodigieusement riche, quoique ne soit pas homme de lettres, prodigieusement spirituel, quoiqu'il soit un peu homme de lettres, et prodigieusement amateur de voyage, quoiqu'il n'ait jamais écrit ses impressions de voyage, me dit un jour: « Savez-vous ce que j'ai vu de plus curieux, de plus bizarre ? Oh, je dis pas de plus beau. Depuis 15 ans que je me promène, mon très ennuyé personnage, du tropique du cancer au tropique du capricorne. Oh, il y a tant de choses curieuses et bizarres. Non, essayez de deviner. Les pyramides d'Égypte. Alors donc, pourquoi pas l'exposition de l'industrie française ? Les cataractes du Niagara. Mais pas du tout. Aujourd'hui, le château d'eau du boulevard du Temple est moins rococo que les cataractes. Oh, alors je renonce à deviner. Bien d'abord, suivez-moi en Hollande, me dit mon sphinx. En Hollande ? Mais oui, et si vous aimez mieux, je vous dirai, suivez-moi en Chine, car la Hollande, c'est la Chine des Européens. Si jamais les Chinois perdent la Chine, c'est à Amsterdam qu'ils iront la chercher et qu'ils la trouveront. Même patience, même fantaisie froide, même calcul grave et puéril, même symétrie, même propreté chez les Hollandais, que chez les peuples du fleuve jaune. Oui, il y a bien quelque analogie, similitude parfaite. Au reste, je ne peux pas vous convaincre, reprit mon ami, le baron de Ville, mais vous abusez un instant, si c'est possible. Par un temps de tragédie, amuser est encore rare. Le typhus et la tragédie règnent. Allez, alors, bon, amusons-nous. J'allais quitter Amsterdam, déjà assez émerveillé de la vue de tant de magnifiques néerlandaises qui semblent être descendantes des tableaux de Rubens, de tant de ponts jetés sur les grands et petits canaux, et de tas de hangars remplis de poivre, de java, lorsque le flegmatique maître de l'hôtel où je logeais me dit: « Quoi, monsieur, vous partez, vous n'avez pas vu Brooke ?»« Que dites-vous, pardon ? Je vous dis que vous n'avez pas vu Brooke ?» L'hôtelier avait repris sa pipe et sa flegme, il était en Chine, causant avec son analogue. Mais qu'est-ce que Brooke ? Il ne répondit pas. Mais pourquoi m'inquiéterais-je de n'avoir pas vu Brooke ? Pas de réponse. De fumée bleue, c'est tout. Est-ce un personnage, un poisson, un monument ? Non, c'est un village. Oh, j'ai du mal à vous le faire dire. Quoi, vous voulez qu'après avoir vu Maastricht, Rotterdam, Amsterdam et La Haye, j'aille voir un village ? Brooke, grommelait en mâchant le tuyau de sa pipe, mon imperturbable Hollandais. Mais que trouverais-je de curieux à Brooke ? Vous trouverez Brooke. Et puis Brooke. Mais mon interlocuteur dormait. Que faire ? Partir sans avoir vu Brooke, me dis-je, en songeant à l'importance qu'avait mise à sa question mon diable d'hôtelier. C'est peut-être manquer une occasion de voir une singularité que je ne rencontrerai plus nulle part, même en Angleterre. Eh bien, allons, partons pour Brooke. J'appelais Béziers, mon domestique, Celui qui depuis 10 ans m'a accompagné partout, dans les mines du quartz et au sommet du pic Tenerife. Celui qui, pour unique fruit de ses voyages, a acquis une belle expérience, réduite par lui en sentence. On ne mange nulle part aussi bien et aussi à bon marché que chez Richelieu au Palais Royal. « Voilà, monsieur, me répondit Béziers. Nous partons pour Bloc, mon cher Béziers. Va pour Bloc, où est donc ce pays ?»« Enfin, je n'en sais rien, lui répondis-je. Partons, monsieur, nous demanderons ensuite. » Et quand nous fûmes sur une des places principales d'Amsterdam, devant l'église Saint-Nicolas, je crois, je m'informai auprès d'un brasseur qui passait de quel côté se trouvait Bloc. Il me fit deux gestes, l'un qui signifiait « Vous prenez à droite » et l'autre qui voulait dire « Vous prendrez à gauche ». Ensuite, il daigna ajouter « Vous vous embarquerez et vous vous ferez conduire à Bulle-Clos. » Il continua son chemin. « Ah, c'est donc un voyage sur mer, monsieur, que nous allons entreprendre ?» me demanda Béziers. J'allais lui répondre lorsque le brasseur, revenant sur ses pas, me dit en allemand « Est-ce que monsieur compte me donner son domestique à Bruck ?»« Sans doute, cette question. Pourquoi ne m'accompagnerait-il pas ?»« Oh, pour rien. Mais enfin, non, pour rien, me dit le brasseur en nous regardant tous les deux, Béziers et moi, avec un sourire railleur peu ordinaire sur le visage d'un Hollandais, et en nous quittant aussitôt. Mais dites donc, laisse cet homme, Béziers, nous verrons bien plus tard si sa remarque avait un sens. À la grâce de Dieu, murmura Béziers. Descendons maintenant, lui dis-je, vers le port, et embarquons-nous pour Bulle-Clos, dont on n'a pas dit plus entendu parler dans sa vie que de Bruck. Monsieur, me disait mon domestique en marchant, j'ai vu les Patagons, les Groenlandais, les Tartares, les Chinois, les Cochins Chinois, mais j'ai rien vu de si original que le peuple hollandais. Ceux-là ne pensent qu'à moitié, et ne parlent qu'aux tiers. Arrivé au port, nous nous jetâmes dans une barque, et je n'eus besoin que de dire au patron « Bulle-Clos » pour qu'il lâchât la mare et gagnât le large. Bulle-Clos existe, pensais-je, c'est déjà un fait acquis. Peut-être Bloc aussi existe aussi. Cela devient probable. Mais pourquoi, j'y reviens, me dit Béziers, ce misérable brasseur a-t-il demandé si vous m'emmeniez avec vous à Bruck? Où est la raison qui s'y oppose? Oh, est-ce que tu penses encore à cela? Ben, c'est que je connais les Hollandais, monsieur. Ils lâchent pas une parole sans la lester auparavant. Oh, ma foi, laisse-moi tranquille, Béziers. Je ne sais pas pourquoi nous nous inquiéterions de la réflexion d'un tonneau de bière. Le patron, qui ne pouvait nous entendre, nous conduisait rapidement sur une île, une rive où nous abordâmes 20 minutes environ après avoir quitté Amsterdam. En le payant, je lui demandais de quel côté il fallait prendre pour aller à Bruck. Oh, vous remontrez ce canal, me répondit celui qui joua le texel aux Uzerzee, et dans une demi-heure vous serez à Bruck. Merci, mon brave homme. Oh, vous allez à Bruck. ajouta-t-il avec un air de grande vénération. Oui, nous allons à Bruck. Pour y demeurer ? À tout hasard, je répondis d'abord oui. Oui ! S'écria-t-il en sautant hors de sa barque. Oui ! Et il nous fit des révérences auxquelles je ne savais quelle signification raisonnable donner. Mais alors, monseigneur, mais alors, Altesse, vous auriez dû en prévenir. Pourquoi vous en prévenir ? Ah, parce que tout le monde ne va pas ainsi à Bruck. Et qui empêche ? Mais vous le savez bien, monseigneur. Certainement, je le sais bien, me hâtais-je de dire, de peur de passer pour ignorer ce qu'un batelier néerlandais n'ignorait pas. Cependant, ce mystère m'intriguait, et afin d'en découvrir, si c'était possible, une faible partie, je repris en riant. Non, je plaisantais, je ne vais pas habiter Bruck, je vais seulement le visiter. Ce soir, je serai de retour à Amsterdam. Oh, ce n'est que pour le visiter, dit dédaigneusement le patron, laissant tomber sa rame et sa vénération dans l'eau. Alors, bon voyage ! Du pied, il poussa sa barque loin du quai, et comme un homme fâché d'avoir dépensé du respect pour si peu, « À propos, cria-t-il à quelques dix brasses du village, est-ce que monsieur emmène avec lui son domestique à Bruck ?»« Oui, je l'emmène si vous le trouvez bon. »« Emmenez, monsieur, emmenez, suivez le canal, Bruck n'est pas loin. » Il alla d'un côté et nous d'un autre. Vous conviendrez, monsieur, que ces gens-là ne sont pas donnés le mot pour savoir de si vous vouliez ou non le projet de me conduire à Bruck. Oui, je commence à croire qu'on en veut à sa vie, à ta vie, repris-je en riant à mon domestique. Oh, je ne sais pas ce qu'il veut, mais franchement, je suis tourmenté de connaître le motif de cette infernale curiosité de leur part. Béziers, as-tu tenu des propos contre la religion réformée ? Bon, je me moque pas mal de leur religion réformée ou déformée. As-tu parlé politique dans quelque établissement public ? Ben, je comprends de quoi que ce soit avec un Hollandais. As-tu... Et nous nous trouvâmes tout à coup, après avoir suivi assez longtemps un embranchement du canal, à l'extrémité de l'arc d'un bassin assez vaste, dont l'aspect nous surprit. Béziers lui-même se tut pour admirer. Nous n'étions réellement plus en Landes, en Europe, mais à Nankin ou à Pékin, devant la ville la plus chinoise de la Chine. De la surface du lac tranquille, vert comme une émeraude, mon regard monta avec admiration sur les bords d'une cité fantastique, blanche, rose, jaune d'or, bleu, le ciel jonquille, gris tendre, et étagée sur des contreforts de gazon peignés comme la chevelure d'une bayadère. Chaque maison perçait l'azur du ciel de ses toits en pointe, courbés en sabots comme le sont les toits des pagodes. C'était de véritables pagodes, les unes en porcelaine blanche, vernie ou bleue l'été, les autres en briques, les autres en marbre pur, les autres en bois doré avec des louchettes d'argent, d'or, ou faites de pierres transparentes. Et à travers ce groupe de palais aériens qu'on ne voit qu'autour des tasses du Japon ou sur les lances des paravents de lac se détachait des arbres comme on n'en voit nulle part, végétation de rêve, ou tel peut-être que ce Goffman dessinait à moitié endormi sur les sables des estaminets de Bamberg. C'était des arbres tout d'un venu, frêles, fluets, excessivement touffus à leur extrémité, taillés en tulipes, ou bien jaunes et comme chargés de myriades de papillons. Les fleurs se balançaient vers le centre à la manière des oiseaux innocents et indolents des tropiques. J'en voyais qui ne portaient que des boutons blancs et en avaient pas une seule feuille. Plus loin se massaient des montagnes de roses, de véritables montagnes de 60 pieds. Et derrière ces montagnes s'élevaient des nuages de tiers et de chèvrefeuilles. Les parfums de paradis nous enveloppaient la distance où nous étions arrêtés, muets d'admiration. Ça et là, des reflets d'or passaient comme des éclairs. Entre toutes les choses magnifiques de splendeur et de silence, le soleil ne savait comment ajouter quelques valeurs à tant d'éclat et d'harmonie. Joignez à ce tableau, dont aucun peintre n'a tenté d'imiter l'originalité, la richesse et la suavité, sa réflexion dans l'eau moirée du lac. Quelle admirable contre-épreuve! On eût dit la Chine venant visiter mystérieusement l'Europe et sortant peu à peu de son vaisseau liquide pour émerveiller un instant deux pauvres voyageurs consternés de surprise. Ah, je commence à comprendre pourquoi, me dit Béziers, quand il put parler, on s'étonnait de me voir avec vous. Nous sommes venus dans le paradis de la Hollande, et comme je suis provençal, tais-toi donc, imbécile. Ma parole d'honneur, s'écria Béziers, nous sommes ici dans le paradis de la Hollande. Voyez s'il y a un seul être vivant. Mais tu es fou, si c'était le paradis, il y aurait quelqu'un. Voyez-vous, monsieur ? Bah, avançons, dis-je à Béziers, et assurons-nous si l'endroit, si ce jardin de fées est habité. Nous tendîmes alors à nous rapprocher de la ville asiatique en suivant l'arc de cercle qu'elle écrit d'une façon si nette et si franche au bord du lac. Et au bout de 10 minutes de marche, sur un terrain beaucoup mieux entretenu que les plus belles allées du parc de Saint-Cloud, nous fûmes arrêtés par une grille en fer doré d'un travail exquis qui courait, nous nous en aperçûmes, alors tout autour de ce prodigieux village en se soumettant aux caprices de sa bizarre conformation extérieure. À la mer entière près, nous avions devant nous la barrière incommensurable de la Chine. Du point où nous nous trouvâmes, nous aperçûmes d'autres beautés, d'autres merveilles que nous n'avions pas pu voir du fond de la perspective. Au centre de la ville se place une promenade d'acacias et de tulipiers, à l'extrémité de laquelle s'élève une église qui la ferme comme un médaillon gothique. Contre l'habitude de l'optique, qui donne plus de prix aux objets à mesure qu'on s'en éloigne, les maisons japonaises, les chaumières indiennes, les fabriques de porcelaine dessinées en zigzags pyramidaux, ne perdirent aucune de leurs enchantements, vus de plus près. La réalité, si c'était une réalité, ne dépouilla pas le rêve. Au contraire, mille nouveaux prodiges, ravis à la mythologie chinoise, vinrent fasciner nos regards. Nous enfoncions dans le cœur du rêve, et nous pûmes distinguer les ponts faits d'écailles de tortue avec leurs rampes en ambre jaune, les cascades tombant dans les bois de porphyre, les labyrinthes de myrtes s'épanouissant autour d'une flèche bromelée à glourée, où frétillait à chaque ouverture un oiseau rare au bec noir et aux plumes de pourpre huppées d'or. Qu'on juge si mon envie était grande de se rapprocher de cet Élysée, tranquille comme l'Éden et amusant comme un paradoxe. Mais comment y pénétrer? Nulle entrée. Et toujours à nos côtés, la grille et son obstacle. Dans l'espoir qu'elles seront prêtes, quelque part, nous la allongeâmes en nous éloignant des rives du lac. Et ma précision fut justifiée. Nous arrivâmes enfin devant une porte fermée à la vérité, mais armée de ses côtés d'un cordon en velours dont je fis aussitôt usage. Je sonnai et un homme parut. « Oh, un homme enfin !» s'écria Béziers. Ce gardien, ce concierge, car je ne sais de quel nom lui donner, quand je me rappelle son costume, se dirigea lentement vers nous, après être sorti de son pavillon de bambou verni. Il était habillé de velours grenat, d'une richesse étonnante pour un homme chargé de la fonction qu'il remplissait. Ses pantoufles étaient également en velours, mais d'une autre nuance, et il portait des gants violet clair. Entre sa veste et son gilet, on apercevait le luxe de sa chemise en toile de frise. Ses riches parties de son costume paraissaient neuves, achetées de la veille. Pas d'usure, pas de plis, pas d'ombre. Que veulent ces messieurs ? Voir Bleuc. Et qui êtes-vous ? Je suis le baron de ville et voici mon domestique. Ah, les domestiques n'entrent pas à Bleuc. Comment ? Et si je veux y passer quelques jours ? Personne ne passe quelques jours ici. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'hôtel et qu'on est reçu nulle part. Mais enfin, mon pauvre Béziers, dit à mon domestique, tu resteras à la porte du paradis. Oui, et les questions du brasseur et du patron de banque ne m'étonnent plus. Mais comme il vous regarde, ce portier du paradis, qu'a-t-il pour autant vous examiner ? Votre habit est noir, comme vous voyez, dis-je au concierge, dont l'inspection presque impertinente intriguait Béziers et faisait bouillonner sa mauvaise humeur provençale. Votre cravate, blanche, monsieur ? Presque blanche, reprit froidement le concierge. Et puis votre gilet de soie verte, un peu usé, déjà porté. Monsieur, vos bottes. Vernis, sacrebleu, vernis, j'en porte pas d'autres. Époustez-les avec votre mouchoir. Oh, la faim! Époustez-les, vous dis-je, ou vous n'entrerez pas dans Bleuc. N'entrerez pas. Non, monsieur, si vos bottes ne sont pas claires. On me refuserait? Oh, vous ne seriez pas le premier à qui la porte de Bruck aurait été interdite à cause de quelque négligence dans le costume. Pour ce motif, elle a été refusée autrefois au duc d'Holstein, au prince royal de Suède, au duc de Toscane. Et Napoléon, le grand empereur, n'a pu y pénétrer qu'en passant les pantoufles sur ses bottes vicieuses et victorieuses. Je me tue. Du moment où Napoléon avait consenti à mettre des pantoufles pour fouler le sol où s'élève le village de Bruck, j'aurais eu l'insolente mauvaise grâce à refuser d'épousseter mes bottes vernies. Et je me soumis. Puisque vous consentez, voilà un mouchoir de batiste, me dit le concierge, en m'offrant en effet un carré de toile d'une finesse exquise. Un mouchoir de batiste pour épousseter est présenté par un concierge. Béziers, attends-moi, Béziers. Je vous suis, dis-je au concierge. Monsieur, me dit Béziers, suivez mon conseil, ne vous risquez pas. Ceci est trop beau pour ne pas cacher un piège. Il vous arrivera malheur. Je ne vous reverrai plus. Nous sommes au pays des sorciers. Retournons à Amsterdam. Vous devinez que les craintes et les prières du bon Béziers ne m'arrêtèrent pas. Je lui donnai deux excellents cigares et je le laissai pour suivre mon guide. Quelques minutes après avoir quitté la ville, nous marchions sur la chaussée qui mène aux premières maisons de Bruck. Cette chaussée n'est ni de sable doux, raffermi par le cylindre, ni de grès, mais de briques de diverses couleurs, parfaitement unies et propres, luisantes et cirées comme une salle de château. On assure que ni chevaux, ni ânes n'ont le privilège de souiller ce pavé royal constamment entretenu. Si par hasard il y tombe une plume d'oiseau, une feuille de peuplier, quelques flocons détachés du manteau soyeux d'un ange, ou plutôt d'un angora, vite les préposés à la propreté publique l'enlève, et le noir et le miroir reprend sa limpidité. Mais par qui donc est habité Bruck ? Demandai-je à mon guide. Je n'ai pas encore vu un seul visage humain. Est-il habité par des anges, par des démons ? Par des millionnaires, me répondit-il. Comment dites-vous ? Par des millionnaires. Des millionnaires ? Oui, monsieur. Pour devenir propriétaire à Bruck, il faut avoir des millions. Le plus pauvre habitant de Bruck n'a pas moins de 2 millions de revenus. Vous n'êtes donc jamais venu à Bruck ? Non, jamais. Alors, vous n'y connaissez personne ? Non, personne. Alors, en ce cas, je vous engage à ne pas aller plus loin, car vous ne serez reçu nulle part. Vous en irez sans avoir vu l'intérieur des maisons de Bruck. Ah oui, j'aurais dû me munir de quelques lettres de recommandation. Oh, monsieur, ici les lettres de recommandation ne peuvent servir de rien. En auriez-vous du grand Mogol ou du grand Lama ? Pas une porte ne vous serait ouverte. Vous savez que l'empereur Joseph II partit de Bruck sans avoir pu pénétrer dans une seule habitation. L'empereur n'avait donc pas de lettre de recommandation, ou plutôt il en avait. C'est plus ce que je disais dans la surprise où je jette cet étrange pays. Que faut-il donc être pour aborder les terribles habitants de Bleuc? Oh, ils ne sont pas terribles, monsieur. Ils sont doux comme le gazon. Mais ils ont tous fait leur fortune par le commerce, la banque, l'escompte. Ils ne comprennent que l'argent, les millions, les dollars des florins. Ils n'aiment avoir que leurs semblables, des banquiers, et encore, faut-il qu'ils soient riches, immensément, prodigieusement riches. Mais alors, je suis chez moi, ici. Comment cela, monsieur? Je suis assez riche, 3 millions de revenus. Mais pourquoi ne l'avoir pas dit tout de suite? Mais êtes-vous banquier? Oui, fils, petit-fils, neveu de banquier. Mon guide s'extasiait. Oh, je n'étais plus un étranger pour la ville, pour lui. Je n'étais plus un paria pour cette Asie. Je suis, ajoutai-je, pour donner plus de crédit à ma confidence, le neveu du célèbre banquier Coult, beau-père de Sir François Burrell. Oh, vous êtes, oui, son neveu. Mais je suis banquier, moi aussi, me dit mon guide. Je crus un instant qu'il allait me dire qu'il était aussi le neveu de M. Colty, mais je frémis pour mon mensonge. « Oh, alors vous êtes banquier, enchanté !»« Oui, monsieur, mais ruiné. Mes confrères m'ont accueilli par considération. Jugez, je n'ai que 100 000 francs de rente. »« C'est bien de leur part. » Oui, j'ai accepté les fonctions de concierge. Tenez, dans cette maison, nous étions dans la grande rue de Bruck, et logé un homme qui possède 80 millions gagnés dans les poivres et les éclairs de tortue. Il est devenu de Java il y a 5 ans, avec une maladie de foie qui l'emportera. Du reste, on ne se porte pas très bien, quoique les riz soient purs. Et si on ne devient pas très vieux, les habitants ne prennent pas assez de distraction, de plaisir. Oui, je comprends, ils font des économies. Et bien, puisque vous avez la faculté de vous introduire chez nos confrères de Bruck, me dit mon guide, nous pouvons poursuivre notre chemin jusqu'à ce qu'il nous plaise d'apprendre où vous sera agréable de vous faire annoncer. Bon, introduisez-moi dans la maison. Vous supposez que je rencontrerai le meilleur accueil. Et si c'est possible, je verrai les mœurs et les amusements plus curieux. Oh, les mœurs sont à peu près les mêmes partout. Silence, tranquillité, repos, la prière le matin, le calcul le soir. Comment le calcul? Oui, tout le monde calcule à Bruck. Maître, valet, enfant. On examine à fond les moyens par lesquels on s'est enrichi, ou on peut s'enrichir. Mais la musique, oh, pas de musique, Abuck. Mais la danse, on n'y danse jamais. Mais la société, oh, les habitants ne se voient jamais entre eux. J'oserais même dire qu'ils ne s'aiment pas davantage, mais pas beaucoup. Mais qui aime-t-il? Ce qu'on doit aimer, l'argent, les plantes, les chats angora et les oiseaux. Et en effet, derrière chaque croisée treillagée de baguettes d'or, j'apercevais un chat angora, blanc, gris ou noir, mais aussi ennuyé que je supposais son maître. Ces chats avaient l'embonpoint des moutons. C'étaient des chats millionnaires, tous attaqués du foie. Ils étaient réfléchis, ils avaient l'air de méditer sur le cours de la rente. Je leur donnais des nouvelles de la santé de M. Rothschild et je passais. Au bout d'une demi-heure de marche, je pus me rendre compte de l'ensemble architectural du village de Bruck. Chaque maison est ornée d'une rampe en fer dorée qui court parallèlement à la rue. Et le passage que laisse cette rampe entre elle et les maisons est une mosaïque formée de pierres d'un choix admirable. La lave, le basalte, le verre, le granit rosé, le marbre Palazzo offraient dans leur rapprochement ingénieux des soleils, des étoiles, des fleurs et des arabesques à l'infini. Malheur à celui qui oserait cracher sur ce mosaïque. La profanation, du reste, est sans exemple. Quand on est fatigué de fouler ce pavé opulent, on s'assied sur des bancs de palissandre artistement ciselés. Et les gens du pays viennent-ils quelquefois y respirer le frais? Rarement. Le matin, ceux qui ont vécu à Beaulieu descendent y fumer leur pipe et prendre le thé. Ils fument donc sans cracher. Moi, j'ai des crachoirs en filigrane plein de sable rose. Vous remarquerez, me dit encore mon guide, avant d'entrer dans une maison à la porte de laquelle nous étions arrêtés, que la plupart des habitants se sont plu à transporter ici la vie, les mœurs et le goût des colonies hollandaises dans les Indes. Bouc est tout simplement un quartier de Java. Moins les esclaves. Oh, il y a aussi leurs esclaves indiens qui les ont suivis pour leur préparer le thé et les apprêter le riz au piment. On le baptise et il reste jaune. Il est temps d'entrer. Ah, attendez-moi, je vais vous annoncer comme le neveu de Monsieur Coult. Allez. Et pendant que mon guide ménageait mon introduction, je saisis un autre détail matériel de cette bizarre organisation sociale. Les tuiles ont l'étamage éblouissant d'un miroir, et les entrecroisées et les dessus de porte sont chargés de peinture à l'huile, absolument comme jadis l'intérieur de nos châteaux en France. On dirait nos châteaux qui ont ouvert au vent leurs quatre faces et sont devenus coulisses. Je vous demande pardon, poursuivit mon ami le baron de Ville. Il portera souvent notre imagination sur des objets de comparaison, mais je vous parle d'un pays auquel vous ne comprendrez rien si je n'avais recours à ces images. Des gens comme ceux qui habitent de tels bijoux ne doivent pas, vous le supposez aisément, souffrir des locataires sous le même toit. Chaque habitant vit seul, chaque monture n'a qu'un diamant. Toute maison a deux portes. Une très imposante par où l'on n'entre jamais, et l'autre petite par où l'on passe, puisqu'il faut passer, quelque original qu'on soit. La grande porte a pourtant trois destinations solennelles. On l'ouvre pour le jour du baptême, du mariage et de l'enterrement. Ces deux portes symboliques se retrouvent du reste dans presque toute la Hollande. Et j'en ai massé l'usage. L'homme a besoin d'être rappelé à la gravité et à la tristesse. Il est vrai que les Hollandais sont déjà si graves. Il paraît que ma réception souffrait quelques difficultés, puisque mon guide tarda tant à venir me chercher. Je ne fus pas fâché du retard. À chaque instant, je découvrais une nouvelle surprise. La plus charmante de toutes fut celle-ci. À un moment donné, toutes les croisées inférieures s'ouvrent et je puis voir alors, sous des draperies bleues et de mousseline, toutes les jeunes et belles filles immortalisées par le pinceau de Rubens, roses, blanches et calmes créatures, travaillant à des broderies ou dessinant sur des cartons placés devant elles. Des oiseaux voltigeaient sur leur tête, et près d'elles, des aras aux plumes qui traînaient comme de dramatiques pages dont les habits étaient des ailes. Et ils éveillaient de loin en loin par leurs cris sauvages et familiers. Un prince aurait pu choisir une femme, un poète, une muse, un peintre, un modèle, parmi toutes ces jeunes filles reines par la beauté, surtout par la richesse. Là sont véritablement des opulentes héritières dont parlent si souvent les romanciers et les faiseurs d'opéra comique. Mais filles, petites filles, arrière-petites filles des banquiers, elles épouseront des banquiers. Voilà 3 ou 4 siècles qu'elles se marient ainsi. Ce sont des multiplications qui s'allient à des additions. Enfin, mon guide vient m'annoncer qu'on daignait recevoir le neveu du célèbre monsieur Koult. Je fus admis. Avant d'être présenté, on me pria de fourrer mes pieds dans des pantoufles en cachemire blanc d'une finesse rare. Je me soumis à l'usage et je fus alors introduit dans un salon où le maître de la maison m'attendait. Je crus voir le grand khan de Tartarie. Une robe de chambre en soie grise, semée de dragons d'or et de monstres qui jetaient des flammes par les narines, enveloppait son corps d'un embonpoint asiatique. Ses beaux cheveux blancs sortaient et dessus un bonnet quadrangulaire et ressemblait assez à l'étage d'une pagode. Je l'aurais bien observé si mon attention n'était tout entière attachée aux meubles et aux ornements du salon où il me recevait. Ici, l'éclat, la richesse, la propreté passaient tout ce que l'imagination enfante dans ses plus grands efforts. Peut-être est-ce trop beau pour l'homme, et ses sens sont-ils faits pour moins de délicatesse? Cette exagération touche d'un côté à la fatigue et de l'autre au ridicule. N'est-il pas ridicule en effet d'enfermer les pattes des chiens et des chats dans des espèces de mitritants, de peur qu'ils ne souillent en passant la mousse des tapis ou la vapeur de l'ébène? Et quel tableau, et quel paysage! Les thoniers, les juvements, les bilets, les omenas, les bergamotes ont travaillé pour ces chaumières. Et depuis le jour où, sortis de leur atelier, ces chefs-d'œuvre sont venus là, ils n'ont plus été décrochés. Immobilité qui les retient, s'il est possible, et qui les rend les plus beaux et les plus sacrés. Voulez-vous voir nos fleurs? Me demanda mon hôte. Oh, j'allais vous demander cette faveur. Venez, passons au jardin. Dès que j'eus mis le pied dans ce jardin, je retombai dans le rêve qui m'avait surpris en voyant de loin Brooke et ses pagodes. Tous les arbres étaient dorés depuis les pieds jusqu'à la plus haute branche. Les feuilles ne l'étaient pas. Et elles empruntaient un indicible effet du badinage de cet or. Je ne pouvais pas, cette manière de costumer les arbres. Le chambellan. Mais je n'étais pas là pour faire une théorie du goût. Les réflexions viendraient plus tard. Heureusement, les fleurs n'étaient pas dorées. Je ne les trouvais que plus belles, quoiqu'il me fût impossible de vous dire le nom d'une seule. Je ne sais ni le chinois, ni le tartare, ni le tanganga, ni le passif, ni le farin. Contentez-vous de savoir que quelques-unes ont coûté 6 000 francs. Et que je n'oublie pas de vous dire une autre circonstance qui me frappa en pénétrant dans ce jardin auquel, près duquel, ceux du Tasse sont des champs de navets. À l'instant, il me sembla bizarrement peuplé. Mon impression n'était pas complètement fausse. Le jardin était plein de lions, de tigres, de panthères, de rhinocéros, faits en bois ou en terre, mais peints avec des couleurs comme ces animaux n'en ont jamais eu sur la terre. La panthère était aurore boréale, le tigre azuré, avec des étoiles sur le dos. Le lion était vert glacé. J'ai vu un renard fait avec des branches de corail et un moulin dont le sommet était une immense éponge. Est-ce que ces gens-là ne sont pas fous? Non, ils sont trop riches. Si jamais nos épiciers français égalaient en richesse ces nababs hollandais, ils auraient aussi des panthères aurores boréales et des chaumières pleines d'épices. Je n'ai pas besoin de vous dire que mon hôte paraissait s'ennuyer horriblement au milieu de ces chinoiseries ruineuses. Son mal me gagnait. J'aurais voulu un peu de bruit autour de moi, et le silence étendu sur la maison me navrait. Nous passâmes à la laiterie, où je vis des vaches dont les cornes et les sabots étaient dorés et dont la queue s'attachait au plafond avec un ruban rose. Pauvre bête. Si je ne vous rapporte pas très au long ma conversation avec mon hôte, c'est que mon hôte ne causait pas beaucoup. Il savait que j'étais très riche, cela lui suffisait apparemment. Combien êtes-vous d'habitants à Brook, lui demandai-je, avant de prendre congé de lui. 500. À peu près 100 familles. Oui, me répondit-il. Et à nous tous, ajouta-t-il. Nous sommes plus riches que tous les souverains des quatre parties du monde. Êtes-vous heureux? Fit-il. Oh, je comprends, oui, vous avez aussi vos peines. Tenez, je serais parfaitement heureux quand j'aurais reçu de Sumatra une fleur que je désire depuis 14 ans. Et quelle est cette fleur? Le crubul. Et qu'est-ce que le crubul, je vous prie? Oh, c'est une rose qui a 9 pieds de circonférence. Le calice de cette fleur, gigantesque, peut contenir 12 pintes de bière, et son poids est de 15 livres environ. Une rose de 15 livres? Son parfum est-il au moins en proportion de sa grandeur? Oh, ses feuilles ont le goût de la viande. Elles répandent une odeur de cadavres, si forte que les mouches s'y trompent, viennent y déposer leurs larves. Quoi, monsieur? Je m'arrêtai par respect pour mon hôte. Adieu, dis-je. Je vous remercie de votre charmante hospitalité. Et mon hôte ne me répondit pas. Il rêvait à son crumule. Voilà donc le bonheur de cet homme, 40 ou 50 millions de fois millionnaire, l'espoir de posséder, après 14 ans d'attente, une rose de 15 livres qui l'infecte. Je courus à toutes jambes vers l'endroit où j'étais levé ses baisiers, qui fut ravi de me revoir. Eh bien, monsieur, Béziers, ce soir à souper, du foie à la poêle, du fromage de gruyère et du vin dit sous la bouteille, entends-tu? Mais, oh, pas de mais, j'ai failli devenir millionnaire. On se réjouirait à moins.